Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi, il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ses auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par les journaux, suivi de le point de vue, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La conférence extraordinaire de l'OCI est en processus. La révision de la loi antiterroriste est importante pour l'Indonésie. Au sommet de l'OCI, le président Mahmoud Abbas veut rencontrer le président Jokowi. L'émir du Qatar considère l'Indonésie comme partenaire stratégique. L'Indonésie offre un projet de transport public en Italie. Et enfin, le ministère du Tourisme cible 400 000 touristes coréens. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien considère que le 5e sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui aura lieu à Balai dans Jakarta les 6 et 7 mars 2016, n'est pas un événement, mais un processus. Il est annoncé par le directeur général multilatéral du ministère des Affaires étrangères, Hassan Klepp, tout en donnant des informations aux médias dans la salle de Nusantara du ministère des Affaires étrangères à Jakarta le vendredi 4 mars 2016. Hassan Klepp espère que ce sommet publiera une déclaration qui contient sur le suivi des participants après la mise en œuvre de la conférence qui sera assistée par les pays membres de l'OCI et les Nations Unies. Alors que pour la première fois au sommet extraordinaire, nous, en tant que l'hôte, l'Indonésie veut voir que ce n'est pas un événement, mais un processus. Donc, pour la première fois sur cette déclaration et pour la première fois. Cette déclaration est une proposition d'Indonésie et maintenant rédigée avec les Palestiniens et a été soumise à divers pays en attendant l'entrée dont le contenu est plus à continuer ce que nous ferons après ce sommet extraordinaire. En outre, Hassan Klepp a expliqué que le gouvernement indonésien avait reçu de diverses propositions des pays membres de l'OCI relatives aux résultats de la déclaration. En plus de produire une déclaration, le 5e sommet extraordinaire de l'OCI produira également une résolution qui contient les vues, les opinions et les positions des pays membres de l'OCI sur la question de la Palestine. Pendant ce temps, à la même occasion, la ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a dit « Ce sommet avec le thème « Unis pour une solution juste » sera assisté par 47 pays membres de l'OCI, 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2 pays observateurs et un représentant du groupe Quatuor. » Retno LP Marsudi a affirmé que dans ce sommet extraordinaire, les participants discuteront le statut de Jérusalem ou Al-Quds al-Sharif, des questions de frontières, les réfugiés, les colonies illégales, la sécurité et l'eau qui étaient discutées par la Palestine et l'Israël pendant 6 décennies. La loi numéro 15 de 2003 concernant le terrorisme doit être révisée pour le rendre plus facile les forces discrétées de lutter contre les actes de radicalisme qui peuvent perturber la sécurité, l'ordre public et la stabilité nationale indonésienne. Ria Mizat Ria Kudu, dans le dialogue avec des journalistes au ministère de la Défense à Jakarta vendredi, a souhaité que la révision de la loi antiterroriste puisse supprimer les actions meurtrières par des terroristes et aussi puisse changer la croyance sur la mauvaise compréhension de la religion à travers un programme de déradicalisation. Selon le ministre de la Défense, Ria Mizat Ria Kudu, pour détecter et empêcher les gens pour qu'ils ne soient pas affectés par la mauvaise compréhension de la religion, il faut expliquer directement à la population dans le village que de tuer ou blesser les autres personnes est l'action qui peut violer la loi de l'État et la religion. Faire rapprochement aux personnes dans les villages pourra détecter les mouvements de terroristes. Le président palestinien Mahmoud Abbas assistera au sommet extraordinaire de la coopération de l'organisation islamique OCI qui aura lieu du 6 au 7 mars 2016 à Jakarta. Il veut rencontrer spécifiquement le président indonésien Joko Widodo. Cela a été déclaré par l'ambassadeur palestinien en Indonésie, Faris Mehdawi, dans une conférence de presse le vendredi soir à Jakarta. Ce sera la première rencontre Abbas et Jokowi. À cette occasion, le président Jokowi pourra écouter plus du président Abbas la question de la situation actuelle en Palestine ainsi que de renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux présidents organiseront une conférence de presse pour discuter des résultats de la conférence et de répondre au soutien international pour l'indépendance palestinienne. À une autre occasion, le président Jokowi a souhaité que le peuple palestinien se réunisse pour construire le pays et réaliser la souveraineté. Le président a déclaré que l'Indonésie a toujours soutenu la Palestine d'être un État souverain, entre autres à travers l'ouverture du consulat honoraire de l'Indonésie dans la ville de Ramallah, la Palestine, le 13 mars 2016. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, évalue que l'Indonésie est un partenaire stratégique du Qatar et attend d'avoir une rencontre avec le président d'Indonésie, Joko Widodo, dans un avenir proche. C'est ce qu'a affirmé l'émir du Qatar lors de pourparlers bilatéraux avec l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Qatar, le maréchal retraité Mohamed Basri Sidi Habi, le conseiller politique Boy Darmawan Adi Antara de Londres. L'ambassadeur Sidi Habi a transmis les lettres de créance et les lettres de retraite de l'ambassadeur Dedi Saiful Hadi à l'émir du Qatar récemment. Ensuite, l'ambassadeur et l'émir du Qatar ont discuté les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Qatar. À cette occasion, l'ambassadeur Mohamed Basri Sidi Habi a exprimé son espoir que les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Qatar se déroulent bien et pourraient être améliorées à l'avenir. Et l'ambassadeur a transmis les salutations du président Joko Widodo à l'émir du Qatar, accompagné du ministre des Affaires étrangères et le chef du protocole du palais, et il espère que l'émir peut visiter l'Indonésie. Le gouvernement indonésien offre des projets de transport en commun dans les grandes villes en Italie pour ajouter des services de transport dans les grandes villes en Indonésie. Les transports en commun dans les grandes villes en Indonésie sont insuffisants. Cela a été déclaré par le ministre de la Coordination maritime, Rizal Ramli, après avoir reçu l'ambassadeur d'Italie en Indonésie, Vittorio Sandali, à Jakarta jeudi. À cette occasion, Rizal Ramli espère également que l'Italie donne l'assistance technique sur la plantation et la culture des olives, parce que l'Italie est connue comme l'un des meilleurs producteurs de l'huile d'olive. Le ministère du Tourisme entreprend divers efforts de promotion pour augmenter les arrivées de touristes en Corée du Sud de 338 671 personnes l'an dernier à 400 000 personnes cette année. L'agent du ministère du Développement du marché de l'Asie et du Pacifique, Vincentius Jemadu, a déclaré vendredi à Jeju, en Corée du Sud, que La Corée du Sud était l'un des principaux marchés qui est devenu l'objet de la promotion de ce ministère. Il a dit que jusqu'à présent, une destination touristique de la plupart des touristes sud-coréens était Bali. Selon Vincentius Jemadu, le ministère du Tourisme s'efforce à introduire d'autres destinations touristiques comme Yogyakarta, Solo, Bandung, Lombok et Manado. Pour attirer plus de touristes sud-coréens en Indonésie, le ministère du Tourisme a participé pour la première fois au festival de Gyeongwol des Boreum Fire sur l'île Jeju. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Divers événements importants qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par Le Quotidien à Paris à Jakarta dans la revue de presse. Nous commençons avec Le Quotidien Compass qui a écrit dans son éditorial jeudi le 3 mars la coopérative pour faire face au libre-échange. La coopérative au niveau du village ne fonctionne pas de sorte qu'elle n'a pas de pouvoir de négociation lorsque les riziculteurs font face aux intermédiaires et grands investisseurs. Actuellement, environ 150 coopératives villageoises dans 17 provinces sont actives et fiables. Ce montant est trop petit pour construire un réseau effectif face à la concurrence de l'investissement dans les villages, y compris les intermédiaires et les grands employeurs. Depuis l'année dernière, le gouvernement a tenté d'augmenter la production alimentaire, en particulier le riz, en augmentant le bien-être des agriculteurs et de maintenir les prix au niveau du consommateur. Pour déprimer les prix élevés, le ministère de l'Agriculture s'efforce de couper la chaîne du commerce par la formation d'une nouvelle structure de marché en produisant du riz tout au long de l'année afin d'éviter la rareté. Le ministère de l'Agriculture subventionne également les agriculteurs sous forme de l'outil de traitement de grains et les moyens de transport afin de produire du riz à des prix compétitifs. Selon Compass, pour faire face au marché libre, la coopérative est plus pertinente pour augmenter le pouvoir de négociation des agriculteurs. Le fondateur de la Nation a rappelé que les coopératives étaient le pilier de l'économie qui correspond à l'esprit de l'aide mutuelle des Indonésiens. Ce qui est nécessité, le gouvernement prend parti pour les coopératives. Pendant ce temps, le quotidien République a écrit dans son éditorial vendredi le 4 mars sur l'éducation des catastrophes. Un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter a secoué l'océan Indien qui a été fortement ressenti dans la région de l'ouest de Sumatra le mercredi soir 2 mars. En fait, la distance de l'épicentre dans l'ouest de Sumatra a atteint environ 800 km. L'Agence de météorologie et de géophysique a émis un avertissement de tsunami qui avait même été révoqué une heure plus tard. Le chef du Centre des données et des relations publiques de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo, a déclaré que le tremblement de terre a eu lieu dans une zone de subduction qui pourrait provoquer un tsunami. Il a reconnu que la socialisation et l'anticipation des dangers des tremblements de terre ont été menées par les gouvernements centraux et locaux. Toutefois, Sutopo rappellera la mémoire de la plupart des gens d'Indonésie qui sont si courtes ou faciles d'oublier des choses comme ça. Selon Republika, c'est l'importance de l'éducation des catastrophes à faire durablement. Nous finissons la revue de presse avec le quotidien Koran Tempo dans son éditorial. Vendredi, le 4 mars, a écrit les sanctions pour le cartel des messages courts. Le verdict de la Cour suprême qui punit 6 opérateurs de téléphone mobile est une bonne nouvelle pour protéger des consommateurs. Au fil des ans, des efforts de la Commission de surveillance de la concurrence d'affaires, KPPU, d'apporter les hommes d'affaires méchants devant le tribunal sont toujours échoués. La victoire n'est pas seulement la victoire de la Commission, mais aussi la victoire de consommation. La Cour suprême a condamné à une amende de 77 milliards rupiah à 6 opérateurs mobiles parce qu'ils sont coupables de faire le cartel dans la fixation du tarif des messages courts ou SMS dans la période 2004-2007. Ce verdict a renforcé la décision de KPPO en 2008 qui avait annulé par la Cour du district de Jakarta Central. Le verdict de la Cour suprême peut être utilisé comme preuve pour une poursuite en recours collectif devant les tribunaux de l'État. La poursuite vise aussi à fournir un effet dissuasif pour les employeurs méchants. Serviteur, c'était la revue de presse de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Bonsoir, serviteurs et serviteurs de quatre coins du monde. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui saisit d'événements importants. Nous commençons avec le président Sukarno a dissous le Parlement des résultats de l'élection générale en 1955, puis a été remplacé par DPR Gotong Royong ou le Parlement de la coopération mutuelle. Le 5 mars 1960, le Parlement des résultats de la première élection générale de l'Indonésie en 1955 a été dissous par le président Sukarno parce que le Parlement a refusé le plan de budget de l'État proposé par le gouvernement. Peu de temps après, le président a réussi à rédiger une liste des membres du Parlement. Le Parlement qui vient d'être formé est appelé le Parlement de la coopération mutuelle ou DPR-JR. Tous les membres du DPR-JR nommés par le président représentent chaque classe et ont été inaugurés le 25 juin 1960. Lors de la cérémonie d'inauguration, le président a déclaré que la tâche de DPR-JR est de réaliser une manifeste politique et le mandat de la souffrance du peuple est de mener la démocratie guidée. Boeing 707 s'est écrasé le mont Fuji au Japon le 5 mars 1966. Le Boeing 707 piloté par le capitaine Bernard Dobson, expérimenté sur ce type d'avion, s'est désintégré et s'est écrasé dans les environs du mont Fuji au Japon peu de temps après son départ de l'aéroport de Tokyo Haneda, alors qu'il était en pleine phase de vol en direction de l'aéroport de Takai à Hong Kong. L'accident fait 124 victimes. De fortes turbulences à l'approche du mont Fuji semblent être à l'origine du crash meurtrier. Ces dernières auraient eu de graves incidences sur la structure même de l'avion, entraînant alors la séparation de l'empennage vertical. Un accident faisant déjà suite à deux autres en un mois à Tokyo. Le dernier en date s'était déroulé la veille, le 4 mars 1966, impliquant un Douglas DC-8-43 de la compagnie aérienne canadienne Pacifique. L'avion ayant heurté de feu d'approche et indique lors d'une tentative d'atterrissage avec une mauvaise visibilité. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est entré en vigueur le 5 mars 1970. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est un accord qui limite la possession d'armes nucléaires signé le 1er juillet 1968. Cet accord a été proposé par l'Irlande et a été signé pour la première fois par la Finlande. Le traité sur la non-prolifération nucléaire est entré en vigueur depuis le 5 mars 1970 après la ratification par le Royaume-Uni, l'Union soviétique, les États-Unis et 40 autres pays. Le 11 mai 1995 à New York, plus de 170 pays ont convenu de poursuivre ce traité indéfiniment et sans condition. Cet accord a trois points principaux, à savoir la non-prolifération, le désarmement et le droit d'utiliser la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre. Indonésie-Angleterre étudie la coopération de la technologie de surveillance maritime. Le gouvernement du président Joko Widodo a déterminé à faire l'Indonésie en tant que pays maritime indépendant avancer fort sur la base des intérêts nationaux. Par conséquent, le programme national maritime devient le programme prioritaire du gouvernement. Ce programme nécessite la technologie des satellites pour l'utilisation et la surveillance du potentiel de la mer. Pour ce programme, actuellement, le gouvernement indonésien étudie la coopération avec le Royaume-Uni, en particulier pour empêcher la pêche illégale. L'Indonésie évalue la technologie britannique pour être appliquée en Indonésie en raison des caractéristiques géographiques similaires de l'Angleterre à l'Indonésie. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente de la coopération, mais ils n'ont pas encore décidé des objectifs temporaires de coopération technique. Dans une série de coopérations mardi dernier, 1er mars, l'Institut aérospatial national, LAPAN, l'ambassade britannique et l'Institut spatial du Royaume-Uni, UXA, ont organisé un atelier sur les applications de satellites maritimes du Royaume-Uni en Indonésie au bureau de LAPAN, Jakarta. Le chef de LAPAN, Thomas Jamaluddin, a expliqué que cet atelier vise à échanger des informations et partager des expériences afin d'améliorer la capacité de LAPAN dans le domaine de la technologie des satellites. Dans cet atelier, LAPAN a présenté également les résultats de la recherche, le développement et le programme de microsatellites. Thomas a également présenté un plan pour le développement de la technologie satellitaire pour la communication. Pendant ce temps, l'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, a dit que l'atelier était nécessaire parce que la coopération dans le domaine spatial est très importante pour l'avenir de l'Indonésie. Cela est dû, l'Indonésie comme pays maritime a des vastes eaux territoriales, donc l'Indonésie doit profiter de la technologie des satellites pour le développement durable. Cette technologie est utilisée dans le but de préserver les ressources naturelles dans la mer et l'environnement. En outre, cette technologie est également pour surveiller les incendies forestiers et de maintenir les limites territoriales de l'Indonésie. Les participants de l'atelier se composent des organismes compétents de l'Indonésie et du Royaume-Uni qui a 80 participants. Du côté indonésien, l'atelier a été suivi par sept institutions, entre autres l'Agence spatiale et aéronautique, le ministère de coordination pour le transport maritime, l'Agence de sécurité maritime et le ministère des Affaires maritimes et de la pêche. Pendant ce temps, le représentant de l'Agence spatiale du Royaume-Uni, UXA, Chris Lee, a déclaré que la Grande-Bretagne a beaucoup d'expérience dans le domaine de la technologie des satellites qui utilise la technologie synthétique aperture radar ou SAR. Cette technologie est compatible avec la région Nuaju indonésienne. La Grande-Bretagne a les satellites de Novasar qui peuvent fonctionner jour et nuit dans toutes les conditions météorologiques. Chris Lee a ajouté, le satellite est en mesure de fournir des données d'observation de la Terre pour la gestion de l'environnement. Sagittaire, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le gouvernement indonésien considère que le 5e sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui aura lieu à Balai Sidang, Jakarta, les 6 et 7 mars 2016, n'est pas un événement, mais un processus. Il est annoncé par le directeur général multilatéral du ministère des Affaires étrangères, Hassan Kleb, tout en donnant des informations aux médias dans la salle de Nusantara du ministère des Affaires étrangères à Jakarta le vendredi 4 mars 2016. Hassan Kleb espère que ce sommet publiera une déclaration qui contient sur le suivi des participants après la mise en œuvre de la conférence qui sera assistée par les pays membres de l'OCI et les Nations Unies. Alors que pour la première fois au sommet extraordinaire, nous, en tant que l'hôte, l'Indonésie veut voir que ce n'est pas un événement, mais un processus. Donc, pour la première fois sur cette déclaration et pour la première fois. Cette déclaration est une proposition d'Indonésie et maintenant rédigée avec les Palestiniens et a été soumise à divers pays en attendant l'entrée dont le contenu est plus à continuer ce que nous ferons après ce sommet extraordinaire. En outre, Hassan Klepp a expliqué que le gouvernement indonésien avait reçu de diverses propositions des pays membres de l'OCI relatifs aux résultats de la déclaration. En plus de produire une déclaration, le cinquième sommet extraordinaire de l'OCI produira également une résolution qui contient les vœux, les opinions et les positions des pays membres de l'OCI sur la question de la Palestine. Pendant ce temps, à la même occasion, la ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a dit « Ce sommet avec le thème « Unis pour une solution juste » sera assisté par 47 pays membres de l'OCI, 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2 pays observateurs et un représentant du groupe Quatuor. » Retno LP Marsudi a affirmé que dans ce sommet extraordinaire, les participants discuteront le statut de Jérusalem ou Al-Quds al-Sharif, des questions de frontières, les réfugiés, les colonies illégales, la sécurité et l'eau qui a été discutée par la Palestine et l'Israël pendant 6 décennies. La loi numéro 15 de 2003 concernant le terrorisme doit être révisée pour le rendre plus facile les forces de sécurité de lutter contre les actes de radicalisme qui peuvent perturber la sécurité, l'ordre public et la stabilité nationale indonésienne. Ria Mizat Ria Kudu, dans le dialogue avec des journalistes au ministère de la Défense à Jakarta vendredi, a souhaité que la révision de la loi antiterroriste pour supprimer les actions meurtrières par des terroristes et aussi pour changer la croyance sur la mauvaise compréhension de la religion à travers un programme de déradicalisation. Selon le ministre de la Défense, Ria Mizat Ria Kudu, pour détecter et empêcher les gens pour qu'ils ne soient pas affectés par la mauvaise compréhension de la religion, il faut expliquer directement à la population dans le village que de tuer ou blesser les autres personnes est l'action qui peut violer la loi de l'État et la religion. Faire l'approchement aux personnes dans les villages pourra détecter les mouvements de terroristes. Le président palestinien Mahmoud Abbas assistera au sommet extraordinaire de la coopération de l'organisation islamique OCI qui aura lieu du 6 au 7 mars 2016 à Jakarta. Il veut rencontrer spécifiquement le président indonésien Joko Widodo. Cela a été déclaré par l'ambassadeur palestinien en Indonésie, Faris Mehdawi, dans une conférence de presse le vendredi soir à Jakarta. Ce sera la première rencontre Abbas et Jokowi. À cette occasion, le président Jokowi pourra écouter plus du président Abbas la question de la situation actuelle en Palestine ainsi que de renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux présidents organiseront une conférence de presse pour discuter des résultats de la conférence et de répondre au soutien international pour l'indépendance palestinienne. À une autre occasion, le président Jokowi a souhaité que le peuple palestinien se réunisse pour construire le pays et réaliser la souveraineté. Le président a déclaré que l'Indonésie a toujours soutenu la Palestine d'être un État souverain, entre autres à travers l'ouverture du consulat honoraire de l'Indonésie dans la ville de Ramallah, la Palestine, le 13 mars 2016. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, évalue que l'Indonésie est un partenaire stratégique du Qatar et attend d'avoir une rencontre avec le président d'Indonésie, Joko Widodo, dans un avenir proche. C'est ce qu'a affirmé l'émir du Qatar lors de pourparlers bilatéraux avec l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Qatar, le maréchal retraité Mohamed Basri Sidi Habi. Le conseiller politique Boy Darmawan a dit à Antara de Londres, L'ambassadeur Sidi Habi a transmis les lettres de créance et les lettres de retraite de l'ambassadeur Dedi Saiful Hadi à l'émir du Qatar récemment. Ensuite, l'ambassadeur et l'émir du Qatar ont discuté les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Qatar. À cette occasion, l'ambassadeur Mohamed Basri Sidi Habi a exprimé son espoir que les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Qatar se déroulent bien et pourraient être améliorées à l'avenir. Et l'ambassadeur a transmis les salutations du président Joko Widodo à l'émir du Qatar, accompagné du ministre des Affaires étrangères et le chef du protocole du palais, et il espère que l'émir peut visiter l'Indonésie. Le gouvernement indonésien offre des projets de transport en commun dans les grandes villes en Italie pour ajouter des services de transport dans les grandes villes en Indonésie. Les transports en commun dans les grandes villes en Indonésie sont insuffisants. Cela a été déclaré par le ministre de la Coordination maritime, Rizal Ramli, après avoir reçu l'ambassadeur d'Italie en Indonésie, Vittorio Sandali, à Jakarta jeudi. À cette occasion, Rizal Ramli espère également que l'Italie donne l'assistance technique sur la plantation et la culture des olives, parce que l'Italie est connue comme l'un des meilleurs producteurs de l'huile d'olive. Le ministère du Tourisme entreprend divers efforts de promotion pour augmenter les arrivées de touristes en Corée du Sud de 338 671 personnes l'an dernier à 400 000 personnes cette année. L'adjoint du ministère du Développement du marché de l'Asie et du Pacifique, Vincentius Jumadu, a déclaré vendredi à Jeju, en Corée du Sud, que la Corée du Sud était l'un des principaux marchés qui est devenu l'objet de la promotion de ce ministère. Il a dit que jusqu'à présent, une destination touristique de la plupart des touristes sud-coréens était Bali. Selon Vincentius Jumadu, le ministère du Tourisme s'efforce à introduire d'autres destinations touristiques comme Yogyakarta, Solo, Bandung, Lombok et Manado. Pour attirer plus de touristes sud-coréens en Indonésie, le ministère du Tourisme a participé pour la première fois au festival de Jeongwol de Boreum Fire sur l'île Jeju.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Ce sont toujours des nouvelles phrases qu'on vous propose à la voix de l'Indonésie. Passons maintenant. Le magazine culturel est suivi par La Variété Indonésienne.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiennes dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à ses auditeurs, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture des diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'alimentation typique de Madura, c'est caldu kokot. Ses auditeurs, Madura est connue comme l'île de sel. Elle a de nombreux aliments typiques tels que le satay de poulet de Madura, soto Madura et le canard frit. Il y a aussi une sorte de soupe qui utilise des haricots verts. Cette nourriture est caldu kokot Madura. Ces auditeurs, kokot est le bas des jambes des mammifères comme le chèvre et de vache. Caldo cocotte est une sorte de soupe avec des ingrédients javanais, tels que l'oignon rouge, l'ail, le gingembre, la muscade et la ciboule et la sauce épaisse. Parfois, la nourriture est servie avec des tranches de peau de vache et ajoutée avec les haricots et petits broyés. Pâtisse est une sorte de sauce qui est fabriquée à partir de moules et de crevettes. Cette nourriture est apte à être mangée quand elle est encore chaude. Caldo cocotte, qui utilise des haricots verts comme matière principale, est bouilli avec des ingrédients spéciaux. La sauce de la nourriture est brune et son arôme vous donnera envie de la goûter. Caldo cocotte est mangé avec l'onton et les morceaux de manioc frit ou croquette. Dans la langue madurese, cette nourriture peut également être mangée avec des œufs et tingour. Tingour est la transe de la bouche ou du museau de la vache. Chez les auditeurs, la sensation de caldo cocotte madura est extraordinaire. Habituellement, cette nourriture est plus délicieuse si elle est consommée en cas de pluie ou de la nuit. Ce n'est pas difficile de trouver cette nourriture parce que l'emplacement de vendeurs de caldo cocotte vendeurs est très stratégique, à savoir autour d'Alun-Alun ou la place de la ville. Les vendeurs commencent à la vendre cette nourriture à partir de 7h jusqu'aux 17h locales. Une portion de caldo cocotte n'est pas cher. Après avoir goûté, nous garantissons que vous serez satisfait et vous voulez goûter de nouveau cet aliment. Ces auditrices et ces auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Caldo cocotte, alimentation typique de Madura ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant. Encore, à bientôt.
Un programme sur les informations actuelles. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique de l'Indonésie en couleur et en beau titre, le festival Java Jazz 2016. Le festival Java Jazz 2016 est tenu à nouveau à Jakarta. Ce plus grand événement musical de jazz dans le pays a eu lieu à partir du 4 mars et se termine le 6 mars 2016 à J-Expo Kemayoran, Jakarta. Comme la mise en œuvre précédente, cet événement présente une collaboration de musiciens locaux et internationaux. Cette année, le festival Java Jazz a le thème qui est plus respectueux de l'environnement et de la culture. Porter le programme Moins de déchets, plus de jazz, qui est formé sur la coopération du Java Jazz Festival Production et le ministère de l'Environnement et des Forêts. Ce ministère fournit environ 80 ensembles de guichets automatiques bancaires au type de déchets secs et humides autour de l'arène Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2016 comme la gestion de la promotion et de la réduction des déchets dans la communauté. Le directeur du Bureau des relations publiques du ministère de l'Environnement et des Forêts, Noh Frizal a dit que l'histoire de la musique jazz n'est pas séparée du changement de contexte du motif de l'ordre public. Ce changement doit être soutenu, notamment dans le traitement des déchets. En plus de fournir des poubelles supplémentaires, ce programme invite les visiteurs à trier les déchets alimentaires avec les déchets d'emballage alimentaire. Tous les déchets générés lors de l'événement sont garantis de ne pas polluer l'environnement, car les déchets seront distribués aux parties qui vont traiter ou retraiter les déchets correctement. Un tel traitement de déchets peut remplacer l'approche de la fin du tuyau en appliquant les principes des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Selon Noh Frizal, les poubelles contenues dans le ATM peuvent être traitées et utilisées comme une ressource comme matière première, les sources d'énergie renouvelable, ainsi que le traitement final des déchets dans les décharges et en la conception de l'environnement. Le Festival Java Jazz 2016 a aussi promu le slogan « Aller au Parc National » aux visiteurs du Festival Java Jazz 2016 qui devrait atteindre 110 000 personnes. Noh Frizal a expliqué « L'Indonésie possède 51 parcs nationaux et 218 zones protégées. » Le mouvement d'aimer l'environnement peut commencer en visitant le parc national. Selon lui, le parc national est une zone de conservation de la nature qui a un écosystème d'origine pour le tourisme et la distraction. Le parc national Indonésie atteint une superficie totale de 16 millions d'hectares, même 6 des 51 parcs nationaux ont été désignés par l'UNESCO comme réserve de biosphère, 6 en tant que patrimoine mondial et 2 en tant que site Ramsar. Noh Frizal a dit la cible de visite touristique dans les zones de conservation pendant 5 ans, 2015 à 2019, est 1,5 million de touristes étrangers et 20 millions de personnes de l'archipel. Jérémy, c'était la rubrique de l'Indonésie en couleur pour ce soir. À demain! Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant au divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.ce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons une chanteuse qui s'appelle Andine. Pour ouvrir notre rencontre, voici Andine avec sa chanson intitulée « Let it be my way ». Bonne écoute.
Berapa banyak
C'était la chanson d'Andine intitulée « Let it be my way » composée par Melly Guslao. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook « Voice of Indonesia » ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. La chanteuse, dont le nom complet Haryadi Andini Aisyah, est née à Jakarta le 25 août 1985. Depuis 2000, elle a coloré le monde de la musique indonésienne. Son sixième album, intitulé Let It Be My Way, a été libéré le 17 décembre 2014. Dans l'album, intitulé Let It Be My Way, Andine a recyclé six chansons. Dans le lancement de cet album, elle a dit qu'elle voulait une nouvelle chose dans chaque album parce qu'elle voulait développer. Bon, serviteur, écoutons donc maintenant la chanson d'Andine intitulée Rindu Ini. Bonne écoute.
Saat rindu melanda
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson d'Andine intitulée Rindu Ini. Cette chanson est une composition d'Anang Hermansyah qui était popularisée par le groupe musical Warna. Auparavant, Boy Ben Shemesh a recyclé cette chanson. Dans la chanson intitulée Rindu Ini, la version de Shemesh et Andine a la similitude dans la musique, à savoir les nuances électroniques. Dans cette chanson, Andine a collaboré avec le DJ le plus populaire actuellement nommé Diva Barus. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons d'Andine intitulées Sempurna la Cinta et Satu yang tak bisa lepas. Bonne écoute et à bientôt!
Kemarin dan esok nanti, kenangan dan harapan bercahaya di dalam hati. Sejuta mimpi menjadi nyata.
Les amis, il y en a des différentes lésures, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles, donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles vocales, nous écouter des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la voix d'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.